デデデッド。
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du Labo, votre atelier de création radiophonique, un grand mot qui désigne cet espace dans lequel vous entrez maintenant et qui est dédié au son, à des formes de radio qui demandent écriture, réalisation, beaucoup d'invention et d'écoute. C'est pourquoi au fil des semaines, je vous propose d'écouter des productions originales ou des accueils sous la forme de documentaires de création, de fiction, longues ou brèves, mais aussi d'art sonore, de pièces radiophoniques qui n'ont pas d'autre nom et d'autre but que de s'intéresser et de faire vivre un art spécifique dédié au son et à la radio, et cela depuis son invention. Normal alors que nous nous intéressions ce soir aux radios amateurs, un terme qui ne désigne pas exactement la pratique de la radio en amateur, mais plutôt la radio comme possibilité de dialoguer et d'émettre à distance, de capter des signaux provenant du monde entier. En fait, les radios amateurs désignent des personnes qui pratiquent comme un hobby, un loisir qui permet d'expérimenter sur un large spectre radiophonique les techniques de transmission qui permettent d'établir des liaisons radio. Gérald Wang a collaboré pendant 3 mois au Labo fin 2017 et il s'est intéressé aux radios amateurs suisses en participant à l'une de leurs conventions, en allant voir de près comment se pratiquait ce loisir très spécialisé. Une histoire de passion, de sons étranges, venus d'ailleurs, voire de musique, des ondes, qui nous fait revenir, nous, gens de radio, qui diffusons sur la FM ou sur Internet maintenant, au béaba de la transmission et de la technique qui nous permet de diffuser nos émissions. Mais ce sont aussi des bricoleurs de génie qu'a rencontré Gérald Wang, vous allez le voir, qui, après avoir passé un examen, peuvent entrer en contact avec des personnes du monde entier à l'aide des ondes courtes, cet espace gigantesque où les signaux électromagnétiques sont réfléchis par l'ionosphère et, après plusieurs ricochets, peuvent ainsi atteindre toute la surface du globe. Cela paraît assez technique, mais en réalité, c'est quelque chose que tout le monde utilise, ou presque. Les ondes courtes, en effet, est un lieu où la radiodiffusion mondiale, les radars, les communications maritimes et aériennes et autres messages destinés, paraît-il, aux agents secrets, se rencontrent. Une bouteille dans les airs, un documentaire proposé et réalisé par Gérald Wang, une production du Labo.
J'ai commencé assez tôt à m'intéresser à la radio.
Je pense qu'il doit avoir de la neige quand même, c'était mieux de la neige.
Je devais avoir 12 et 14 ans comme ça. J'ai commencé à écouter en fait aussi sur le poste à lampe. J'écoutais les radios amateurs que j'entendais sur la bande des 40 mètres, en AM à l'époque. Il y avait les gens qui parlaient, et puis un peu plus bas en fréquence, il y avait cette musique un peu bizarroïde. La télégraphie, quoi. Puis c'est là que je me suis dit que si je voulais devenir radio amateur, il fallait maîtriser, enfin plus ou moins, la télégraphie. C'était une nécessité pour obtenir la licence.
C'est intriguant. C'est intriguant parce qu'au début, on comprend rien. On comprend que du bruit. On apprend et on dit, tiens, là, il y avait un P, là, il y avait un F. Tiens, là, c'est un CQ, là, c'est... Ah, puis après, on commence à décoder les indicatifs, et puis après, ça devient un A, puis après, ça reste dans la tête.
D'abord, vous apprenez les lettres, puis après, quand vous lisez, quand vous savez lire, vous reconnaissez les mots.
C'est comme de la musique, quoi. Pour finir, on décode des syllabes entières, quoi.
Plus on va vite, plus on comprend le mot. C'est plus la lettre, comme au scout ou avec la lampe de poche, on fait un point, un trait. C'est plus du tout ça, c'est musical, quoi. Et c'est là où c'est fun. C'est quand on comprend ce langage et qu'on l'a dans la tête, et puis après, on le donne au bout des doigts et on émet ça. C'est magnifique, ça. On appelle CQ, qui appelle appel général. Donc on envoie une bouteille, on envoie des flyers en l'air. On ne sait pas exactement qui va nous entendre, puis la personne nous répond. Ça peut être en anglais, ça peut être en américain, ça peut être en japonais, ça peut être suivant les fréquences et les antennes utilisées ou des contrées rares. C'est vraiment très aléatoire et hypothétique.
Moi, j'ai du plaisir à me sentir en contact avec quelqu'un qui est très loin de chez moi. Même si on ne le connaît pas personnellement, c'est très agréable.
Qu'est-ce qu'on entend en écoutant CQ Serenade? Da-di-da-di-da-da-di-da. C'est épatant d'entendre souvent CQ Serenade. Les ondes sont remplies d'amateurs de tout pays, le monde en est couvert et ne soyez pas surpris d'entendre ces amateurs qui se comprennent si bien. Voilà pourquoi ils chantent ce refrain. Da-di-da-di, da-da-di-da, da-di-da-di, da-da-di-da. En quel bonheur, en tranquille.
On est où ici? On est à Villars-le-Terroir au Radio Club des radioamateurs vaudois. HB9, Mike, HB9, MM.
Donc il y a.
C'est ça que je voulais savoir, parce qu'il y avait un interrupteur.
Ça doit être ça.
On est en train de monter le pylône qui se présente en trois parties. Un pylône de 18 mètres, donc qui se coulisse l'une dans l'autre, avec un moteur à sa base.
C'est assez impressionnant, elle fait quelle dimension l'antenne?
L'élément le plus long, je crois qu'il fait 10 mètres 40, c'est ça?
Et quoi?
La dimension de l'antenne.
Elle doit faire un peu plus de 10 mètres, oui, ouais. De large.
Elle est en haut. Et puis là, on est en principe mètres. Opérationnel.
Alors, c'est une antenne Yagi. C'est comme les antennes de télévision, en fait, ce qu'on appelle les râteaux.
Ça, mais en très gros, quoi.
Voilà. Et ça fait une paye qu'on est ici. On a fait aussi beaucoup d'expérimentations. C'est le but des radioamateurs. On a monté des antennes verticales plus ou moins grandes avec des systèmes plus ou moins efficaces pour travailler sur des bandes de fréquences plus basses, contacter des Japonais sur les ondes moyennes ou ce genre de choses. Pendant l'hiver surtout, parce que comme on n'a pas de terrain à nous, on se faisait prêter en fait les terrains alentours pour installer nos affaires. Avant cette antenne-ci, on en avait une qui était sur le toit, qui était un peu du même genre, parce que c'est le plus efficace dans les dimensions qu'on peut avoir nous, quoi. Les stations de radiodiffusion sur ondes courtes, elles ont des systèmes d'antennes qui sont tellement énormes que pour nous, c'est pas possible, quoi.
C'est quelle dimension, même ça peut atteindre
Qu'est-ce qu'elle peut avoir? 50 mètres de haut, ouais. Sur facilement 50 ou 60 mètres de large.
C'est pas très réaliste, quoi. Ça reste un domaine du rêve, c'est beau, mais c'est pas très réalisable en tant que club radioamateur.
En fait, on a eu l'occasion, une fois, lors de l'arrêt des émissions de Radio Suisse Internationale, on a eu l'autorisation d'utiliser l'antenne qui était à ce temps et qui avait un gain énorme. Donc là, c'était vraiment une très bonne loupe, quoi. Et c'était un rêve d'ailleurs que j'avais toujours eu. J'ai jamais pensé que ça se réaliserait un jour. D'ailleurs, je crois que dans le monde, on est vraiment privilégié parce que je connais pas tellement d'autres gens qui aient eu cette occasion-là, quoi. Bon, on s'est branché sur les gros câbles de l'émetteur.
On a écarté les yeux tout grands. On a observé sous cette partie mécanique et cette toile d'araignée monstrueuse.
En fait, c'est une antenne rideau. C'est différentes antennes qui sont couplées entre elles et qui sont devant effectivement une espèce de rideau qui sert de réflecteur. Et puis qui sont alimentées chacune avec un système de manière à obtenir, disons, que le faisceau soit concentré à l'avant de l'antenne. Et puis cette antenne-là particulière de ce temps, c'était une des seules dans le monde de ce genre-là qui était montée sur des rails, donc qui pouvait tourner en fait dans la direction où on voulait, avec un très gros moteur évidemment.
Ça mettait toute la nappe tournait.
Voilà, tout l'ensemble, les supports.
Tournait,
tout.
C'était assez fantastique. Il y avait une revue japonaise où on était, HB9MM était le signal plus fort reçu au Japon. Pour eux, au niveau européen, on était la station la plus forte jamais entendue. Donc c'est quelque chose qui fait plaisir. Et on avait un outil, c'est vrai, un outil assez exceptionnel. Que pendant un mois.
Après, ils l'ont rasé complètement, il n'y a plus de traces maintenant. Voilà, c'est terminé.
Complètement. C'était la catastrophe.
Bon, pour un club, ça n'aurait pas été possible de maintenir en état une telle structure. Ça aurait coûté beaucoup trop cher.
C'était pas envisageable, c'était pas possible. Même la Confédération a baissé les bras et n'a plus voulu financer l'entretien de cette antenne. C'était pas possible.
Ça, c'était pour les émissions, évidemment, destinées à d'autres continents. Soit elle était tournée vers l'Asie ou vers les États-Unis ou l'Amérique du Sud. Ça dépendait des moments, quoi. Des moments de la journée, en fonction des émissions qu'ils avaient.
C'était la bonne époque où il y avait la Voix de l'Amérique, Call Israel, et les radios russes, où on pouvait avoir les informations un peu distordues.
Des points de vue différents.
Voilà, tout à fait, exactement.
Il suffisait de tourner le bouton pour avoir des points de vue différents.
Ici, Radio Yougoslavie sur 11 835 et 15 165 kHz.
Radio Suède, Stockholm.
Vous venez d'entendre la première partie de la composition littéraire consacrée à l'anthologie des Muses, le séjour. Choix de texte d'Olga Smolitskaya et de Sergei Buntman. Nos émissions littéraires passent sur Radio Moscou International la deuxième et la quatrième semaine de chaque mois.
Ici, Damas, radiodiffusion de la République arabe syrienne.
Ici Athènes, radiodiffusion hellénique. Vous êtes à l'écoute de la Voix de la Grèce.
Ici Radio-Canada International. nous diffusons vers l'Europe sur 21 675, 17 875, 15 325, 13 650, 7 235 et 5 995 kHz dans les bandes des 13, 16, 19, 22, 41 et 49 mètres.
Radio Österreich International setzt in der folgenden halben Stunde sein Programm in französischer Sprache fort.
Bonjour, au sommaire, un entretien avec Francesca, ambassadeur d'Autriche auprès des organisations internationales à Genève.
Ici, Radio Génération Kaboul.
Message de félicitations des dirigeants vietnamiens aux dirigeants de la Mongolie à l'occasion de la 70e fête nationale de ce pays.
Radio Havane Cuba vous invite à écouter ces émissions en langue française.
Chers auditeurs, bonsoir. Au sommet de cette émission, notre journal parlait un reportage sur l'augmentation de la production industrielle en Chine.
Moi, quand j'ai commencé à écouter les ondes courtes, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait des radios amateurs qui utilisaient certaines fréquences, qui parlaient entre eux.
Bon, bah, c'est nickel, le cornet aussi. Bon, c'est peut-être pas l'idéal, comme tu me dis, comme cornet, mais je pourrais démarrer avec ça. Et puis, je sais pas ce qu'il faudrait, peut-être un visiosat, mais je crois que ça devient difficile à trouver.
Je les écoutais avec le récepteur familial, on pouvait les écouter assez facilement à l'époque, mais c'était dans les années 70, début des années 70.
Le diamètre du cornet, c'est 2 cm, c'est assez bizarre. Je pense pas que ça marcherait très bien. Je crois que c'était sur des paraboles qui étaient faites pour le 12,5 Go, il me semble.
Il y a un type que j'ai jamais oublié, un de ces gars qui parlait à l'époque, un Français qui était du côté de Cannes. Et puis moi, je l'entendais tous les jours, donc je m'en souviens encore maintenant, je me souviens de sa voix.
J'en passe le micro, Baptiste, c'est le 4GXX, 4CMSY.
Ok. Ok, merci pour votre micro, GG, 4CMSY, 4GXX.
C'était un certain 9TO, Jean-Marie Souffereur, qui était du côté de Cannes. Et je l'entendais pratiquement tous les jours. Les autres, je m'en souviens pas, mais lui, je sais pas pourquoi, je m'en souviens toujours.
Everybody is, the band is really open.
Hey, Mike, file 15 was open yesterday too.
The dog out. Yeah, okay.
Les radioamateurs, à l'époque, ils avaient plus l'habitude que maintenant de construire leurs équipements eux-mêmes. Donc là, ils parlaient beaucoup de technique, mais ils pouvaient parler aussi du temps qu'ils faisaient ou de toute autre chose, mais en particulier, c'était des gens qui aimaient beaucoup la technique, puisqu'ils construisaient eux-mêmes au moins leurs émetteurs, les récepteurs un peu moins, parce que c'était un peu plus compliqué, mais souvent, ils avaient un émetteur de construction maison, donc ils faisaient leurs essais entre eux, et puis ils se donnaient des trucs, des astuces, etc.
Ça passe bien, apparemment, Jean-Paul, tu sais, t'es arrivé 59+, Jackie, Michel Acu, pareil, j'ai pas entendu Michel, si c'est faux. Mais ça va pas tarder, Jackie DVO 9+ également.
C'est ça qui m'a fasciné, puis jusqu'au moment où j'ai fait mon premier émetteur, j'avais toujours en tête cette idée de vouloir, de pouvoir construire moi-même avec des tubes que j'avais récupérés dans des vieux téléviseurs, des composants récupérés dans des vieilles radios. Et puis il y avait des schémas sur des revues. À l'époque, on trouvait des schémas dans des bouquins aussi, des anciens livres. Mais bon, j'ai pas mal transpiré parce que il suffisait pas d'avoir le schéma, de savoir le lire et puis de juste souder les pièces, mais il y a des notions qui étaient plus subtiles et puis j'ai dû apprendre à la dure, quoi. Mais c'était une très bonne expérience, quoi, je dois dire. C'était vraiment fascinant comme introduction à la radio. Et puis d'entendre les autres parler de ce qu'ils faisaient, ça faisait rêver parce qu'on avait envie de faire la même chose, quoi.
D'excitation au lieu de 7 là. Alors 10 watts, ça monte beaucoup plus haut. Hein. Attends, je vais faire l'expérience rapidement quand même. Kilowatt. Ouais, je monte à 330, 340 watts. Ça monte quand même. Hein.
À l'âge de 13 ans, j'ai construit mon premier émetteur. Et puis ben, j'en ai pas fait grand chose parce que comme j'avais pas de licence, je pouvais pas l'utiliser. Enfin, j'ai quand même branché sur une antenne, comme tout le monde a fait un peu au début. Et puis, la licence, ben, je l'ai eue à 18 ans. À ce moment-là, je commençais à connaître un peu mieux les choses.
Étrange que t'aies déjà entendu.
Étrange. Ça, c'est une bonne question parce que les sons étranges, on finit par s'y habituer et du coup, ils sont plus étranges, mais vraiment étranges.
Fameux buzzer qui est un drôle de signal qui m'a intrigué pendant très longtemps. C'est en fait toujours très mystérieux cette histoire. C'est un émetteur qui émet ce son 24 heures sur 24. Et puis de temps en temps, mais une fois par semaine ou par mois, Il s'interrompt ce son et puis il y a quelqu'un qui parle en russe. Alors on sait que l'émetteur est en Russie, on ne sait pas exactement à quoi il sert. On peut imaginer que ça soit un système d'occupation de fréquence simplement. D'après certaines théories, ça serait un système qui permettrait d'alerter la population ou certains services d'un danger quelconque. Mais on ne sait pas grand-chose en fait. Tout ce qu'on sait, c'est que ce signal est émis 24 heures sur 24 et c'est vraiment mystérieux. Ça fait depuis 1973 qu'il est sur les ondes et puis on n'a toujours pas compris à quoi il sert. Voilà, c'est pas très divertissant, mais c'est très intriguant. Je sais pas du tout ce que c'est, ça. Ce bip, je l'ai entendu des centaines de fois, mais je sais pas du tout. Je sais que c'est aussi une histoire qui se trouve en Russie, mais alors à quoi ça sert, j'ai absolument aucune idée. Il y a des stations qui transmettent des séries de chiffres. Il y en avait énormément dans les années 70-80. Je me souviens très bien, on entendait très souvent des séries de chiffres. Il y en avait un peu partout, quoi, sur les ondes courtes, c'était assez rigolo, quoi, parce que ça donnait une touche un peu, comment dire, mystérieuse, quoi. Mais là, on sait ce que c'est, on sait pas exactement qui les émettait, on sait qu'on utilisait ce système-là pour transmettre de manière assez sûre des messages aux agents secrets qui étaient de l'autre côté de la barrière, quoi. Je trouve que c'était une idée géniale d'utiliser un mode d'émission qu'on puisse recevoir avec n'importe quelle radio de poche. Je trouve ça assez fascinant, quoi, pour transmettre des choses qui sont finalement très importantes, mais codées. Alors que maintenant, on utilise Internet, ça paraît simple comme ça, puis en fait, c'est toute une infrastructure extrêmement complexe, quoi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c'est simplement des éclairs très lointains qui sont guidés par le champ magnétique terrestre. Et puis, ils tournent là autour, donc ils sont vraiment comme dans un tuyau, quoi, qui est représenté par le champ magnétique terrestre. Ils passent de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, ou inversement. Et puis, du coup, le signal subit des distorsions incroyables, et puis ça devient, ça donne ces espèces de sifflements, si on peut appeler ça comme ça, quoi. Donc, chaque fois qu'il y a un de ces sons, à la base, il y a eu une décharge d'orage, quelque part, peut-être au milieu de l'Afrique ou n'importe où, quoi.
Allez Daniel, alors on est sur la bande des 40 mètres,
si ça marque, par exemple,
et puis on essaye de trouver quelque chose. Et c'est Claude Alain qui va prendre...
Bon, taisez-vous, je vais faire mon QSO. Moi.
Donc là, il cherche une fréquence déjà, une fréquence libre, voilà. Il va peut-être même demander, est-ce que la fréquence est libre ?
Non, je vais demander.
Il va demander, voilà. Voilà. Là, QRL. Point d'interrogation. Est-ce que la fréquence est occupée?
Et là, t'attends une réponse?
Bah, si t'as personne qui répond, bah...
Il la refait. Deuxième fois. Là, il y a personne qui répond, donc je peux y aller.
Donc là, il appelle CQ. CQ. Hein. Okay. C'est comme en anglais, CQ.
Ouais.
Et là, c'est son call. HB9CGL. Une fois, deux fois. Please K, PSEK, ça veut dire s'il vous plaît, répondez. Et puis là, il écoute. Voilà.
C'est un N4QS.
N4QS, un américain. Alors, N4QS. Encore. 2 HB9 CGL. Good evening. Dear OM, c'est cher OM. Thanks for calling. Your RST. Un report qui indique avec quelle force il reçoit le signal en question. Bon, il a dit 599, il est un petit peu généreux. C'est l'endroit où on est. Bon, il dit Lausanne, hein. Il dit pas Villars-le-Terroir.
Sur à distance, hein, ça fait pas beaucoup de différence.
Comment? How? Et là, il repasse son négatif. N4, c'était QS. Hein.
QS, ouais.
2. HB9-CGL. KN, voilà.
Okay.
Ça veut dire N, ça veut dire qu'il a nommé la station. K, ça veut dire qu'il invite à transmettre, mais avec le N, il dit qu'il invite à transmettre une certaine, la station qu'il a nommée. Passe ce report là-bas.
C'est pas mal aussi.
Kentucky, le QTH, KY. Hop. Dave.
Dave au Kentucky nous a répondu.
Ben oui, bêtement. Hein. Alors maintenant il dit how, il a dit how pour l'interrogation. Comment on l'a reçu enfin?
Quel matériel?
Non, il a envoyé de l'info, puis il nous demande si on l'a bien reçu, en quelque sorte. Bon, c'est le deuxième tour maintenant, je ne sais pas s'il va poursuivre ou pas. Il dit ok, dear Dave. Il passe la description de la station, donc le nom du transceiver. La puissance, à peu près 1 kW. Puis l'antenne. Dipôle. Le WX, c'est le temps.
Weather.
Snowing. Température. Bon, 0 degré. Voilà, il a fait la même chose. How pour l'interrogation, puis il lui repasse le. Voilà.
Là, on va savoir comment il fait au Kentucky.
Oui. Là, tu entends son call qui revient.
Ouais.
Ça, c'est toujours assez intéressant, ça.
Repérer.
Non, quand on colle, il revient de loin, là. 500 watts.
Elle utilise une antenne verticale.
Ça valait bien la peine de sortir toute cette technologie, hein. Pour le QSO, quoi. Mais 73.
Ça vient d'où, ça, 73?
Ah, ça, je sais pas, alors. Ça, je saurais pas dire, alors. Je me demande. C'est, en télégraphie, c'est très symétrique. C'est une musique un peu symétrique.
Ça fait comment, alors?
Ça fait ta-da, ti-di-di, ti-di-di, da-da. C'est peut-être pour ça, c'est un peu musical, je sais pas.
Salutations.
C'est mes très bonnes salutations, puis on peut le répéter trois fois si vraiment on veut lui dire. Je te remercie vraiment beaucoup.
Vous lui dites VY73, ouais. VY73, very,
mes très bonnes salutations.
Ça, c'est universellement
best, best 73, comme si c'est une grande embrassade. Donc c'est,
mais je trouve ça beau, en fait, que dans ce langage, on y prit le soin, en fait, de mettre ce genre de petits mots.
C'est juste pour ça que c'est magnifique, parce qu'avec deux lettres ou quatre lettres, on arrive à envoyer une image, en fait,
Parce qu'il faut bien comprendre qu'on n'a pas, alors surtout en morse, on n'a pas le visage de la personne, donc on n'a pas les expressions visuelles, les émotions qui sont transmises. Et en morse, on n'a pas vraiment, on a une tonalité, parce qu'il y a, voilà, il y a quand même une tonalité en morse, oui, mais c'est une tonalité personnelle. Par contre, il n'y a pas les fluctuations. Oui, on peut reconnaître. On peut reconnaître les gens. Mais simplement, on n'a pas la fluctuation de la voix, donc les émotions ne passent pas. C'est pour ça qu'en fait, on accentue. Par les expressions, un côté chaleureux qu'on ne peut pas marquer autrement. Aujourd'hui, on a la même chose avec les SMS. Aujourd'hui, avec les WhatsApp et SMS, on a les emoticons qui ont été inventés pour ça. Il y a des gens qui en sont très avares. Moi, je connais dans mon entourage, des gens qui n'ont jamais eu un émoticône de leur part. Et en radio, on a aussi cette différenciation.
Il y a des gens qui ne vont pas mettre 2,73 et puis 2.
Voilà.
Parce qu'on n'est pas censé parler de politique et la plupart, enfin 99% des gens respectent cette idée-là.
Parce qu'on n'est pas là pour ça. La Palestine et juste après en israélien, il n'y aura pas de lézard. Ouais. Et après en russe et après en américain, sans problème. Sans devoir dire.
D'ailleurs, un truc qu'il faut signaler, c'est que avant la chute du rideau de fer, il y avait énormément de trafic de l'autre côté. Du côté est, tous les pays de l'Est, en fait, chez eux, c'était réellement considéré par l'État comme un sport. Et puis, c'était très facile de contacter des Russes,
encore le cas, non ?
Oui. Ça a un petit peu baissé, mais ils étaient vraiment extrêmement nombreux, quoi, ce qui était quand même surprenant.
Oui, pour rappeler où on est, voilà.
À l'époque, moi, je me souviens que j'avais commencé, ben, pour moi, c'était totalement exotique, parce que j'avais jamais mis les pieds là-bas. Pour moi, c'était vraiment très loin, très, très distant aussi au niveau de la mentalité et tout. Puis tous les jours, je contactais des Russes, quoi.
Каждый вас весенним, Михаил. Александр тоже строитель, на приезд.
Да, привет, Александр, чудесно. Я слушаю еще один сигнал, Андрей.
Ah, tu l'as fait ou bien?
Voilà, ça c'est le Brésil.
Hotel Bravo 9, Mexico, Mexico. Hotel Bravo 9, Mike, Mike, HB9, Mexico, Mexico. Hotel Brasil 9, Manila, Manila, HB9, Manila, Manila. Hotel Brasil número 9, Mike Mike, HB9, Manila, Manila. Anybody using the frequency? Anybody using this channel? Beaming Sudwest. This is Hotel Bravo 9, thank. Hotel Brazil 9, Mexico, Mexico. Honolulu Bravo 9, Mike Mike. HB9 Mexico, Mexico. Hotel Bravo 9, Mike Mike, like in CQDX, CQ Delta X-ray. HB9 Mexico, Mexico, calling by. Dans mes débuts, j'ai contacté le roi d'Espagne. C'est Eco Alpha, comment il s'appelle? Ah, Juan Carlos, c'est Juliette Charlie. Puis je lui ai parlé comme ça, puis d'un coup, clic. Oh, c'est le roi d'Espagne! Mais comme voilà, comme n'importe qui. Voilà, mais maintenant il opère plus. Puis, je ne sais même pas s'il est décédé. Je sais plus. Mais c'est des gens que tu n'imagines même pas, des gens qui sont rédémateurs, qui sont très haut placés, puis tu les contactes comme ça, puis c'est tout quoi, c'est tout simple. En fait, la personnalité ne compte pas à ce moment-là. Ce qui compte, c'est en fait le hobby. CQDX, CQ Delta X-ray, CQ Delta X-ray, CQDX. This is Center Europe calling, Hotel Bravo 9, Mexico, Mexico, calling. Le premier contact, je l'ai réservé avec mon père. Parce que mon père était aussi radiomateur. Et puis quand j'ai commencé, le but c'était en fait de contacter mon papa. Moi j'étais ici, lui il était au Portugal. Et pour finir, il avait une maladie, puis il ne pouvait plus parler, puis on se contactait en télégraphie. Mais c'était un contact qui me faisait la chair de poule, qui m'a fait la chair de poule quand je l'ai entendu là, sous le haut-parleur de la radio. C'était incroyable, c'est des choses qui restent quoi. Je parle souvent avec des Japonais, des gens que j'ai jamais vus de ma vie donc. Okay. On est à 39 degrés, attends je vais ramener à 100 degrés.
On discute de choses, on discute de techniques parce qu'on n'a pas tellement le droit de discuter d'autres choses. Mais après, tu discutes de la pluie, du beau temps, quand même. Des fois, on discute qu'est-ce qu'on a mangé à midi. Là, les personnes veulent dire quoi que ce soit. Puis après, on se dit qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais quoi? Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Puis après, à force de faire 4, 5, 6, 10 fois, 100 fois le QSO, de parler avec, après, en fait, c'est une habitude. Et après, comment tu vas? La famille va bien et tout. Et puis, c'est un contact qui t'approche, quoi, avec... Hein. Avec ces gens-là, même si tu ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Hein. Mais je pense que.
Si tu vas au Japon.
Ouf, non. Oh là là, ça serait magnifique. Je pense que j'hésiterai pas à les visiter.
Peter, William United, W8.
Well, I've got a daughter that's about 23 and is an Army officer in Germany, and I have a 20-year-old daughter that lives in Flagstaff, Arizona, and she's a student at Northern Arizona University, and a son that is playing football.
On était dans le sud-ouest, dans la barre, camping-car. On se pose dans un village et on était pas en scooter, je m'en rappelle. On était avec la moto. On descend la moto et on part du pays pour aller ailleurs. Et quand on arrive à la sortie du pays, on arrive dans un rond-point et
y avait des végétaux au milieu des arbres, des buissons, des trucs. Ils étaient planqués dedans. Ils étaient planqués dans les buissons, à l'intérieur du bosquet, à l'intérieur du carrefour. Je crois que Jacqueline, elle a gueulé, n'importe quoi, ou un truc comme ça. En passant, là. Tu voyais que les yeux du hibou, là, que les jumelles, la chie.
Eu vou até visitar você lá, tu.
Ah, então, eu só vou esperar o bater o sino aí.
Muito bom. Combinado todo mundo.
Pega o Kenneth.
You know how to paint.
Well, that's good. I have a whole family of painters. My uncle, both uncles were painters. And a professional. They just told me, don't go near my brushes. Yeah.
Well, I had a roller my uncle used back in the 50s, and I painted with that in one bathroom. I threw the whole thing away. Went and bought a modern roller.
Yeah, just because it's old doesn't mean it's better.
No.
Very few times.
Il y a énormément de variétés chez les radioamateurs. Il y a ceux qui s'intéressent à la télévision. Il y a ceux qui s'intéressent aux transmissions par satellite, les télégraphistes. Il y a ceux qui font que de la phonie parce qu'ils détestent la télégraphie. Il y a... voilà. Et le contraire. Il y a de tout, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Tout ce qui bouge, tout ce qui vit, émet des ondes électromagnétiques, quoi. Il suffit de...
C'est au niveau moléculaire, je dirais, une vibration, il y a...
Mais tout, donc, tout ce qui est plus chaud que le zéro degré absolu émet des ondes électromagnétiques. On peut, avec un récepteur sensible... par exemple, en pointant l'antenne vers le soleil, on peut détecter une augmentation du bruit de fond, effectivement.
Oui, quand il y a des éruptions, on arrive à entendre qu'il y a des changements sur Terre.
Ça influence justement la ionisation de la ionosphère. Et du coup, ça change les conditions de propagation. Ça peut soit les augmenter ou les annuler. Hein. Des fois, il y a des blackouts qui sont dus à des explosions solaires. Ça peut arriver que les ondes courtes deviennent complètement muettes, mais complètement, quoi, pendant quelques minutes. Parce qu'il y a des particules qui viennent neutraliser la ionosphère. Et après, ça reprend gentiment. Mais j'en ai déjà entendu pas mal de blackouts comme ça.
On est très dépendant de l'activité solaire pour les émissions d'ondes courtes, en tout cas.
C'est clair que si le soleil s'éteint, il n'y aura plus d'ionosphère. Et puis, il n'y aura plus de trafic sur ondes courtes comme on le connaît, nous.
Moi, des fois, je m'amuse avec mon ami à lui dire je suis tout content quand j'établis un contact, alors je suis tout fou. Mais en fait, c'est une satisfaction très personnelle parce que j'arrive vers elle puis je lui dis oh, c'est génial, j'ai contacté Tombouctou, je sais pas quoi. Puis après, je dis mais dans l'absolu, c'est vrai que dans l'absolu, trois minutes après, mais on s'en fout. C'est inutile, mais c'est ce plaisir que ça procure sur l'instant, avec son installation, avec ses propres moyens, qu'on arrive à contacter d'autres radioamateurs, c'est juste ce moment-là. Des fois que j'envoie mon appel dans l'air, dans l'infini, astral, sidéral. Je me dis, personne ne me répond. Mais qui me dit que mon signal, dans 100 ans, quand je serai déjà mort, ou dans 200 ans, dans 300 ans, on ne captera pas mon signal? On travaille pour l'infini. En fait, on vit, quoi.
C'est en fait, c'est le contact, c'est le plaisir, c'est le hobby qui mène le bal, quoi. C'est ça qui est bien. Mais bon, amener des gens là-dedans, ça serait bien qu'il y ait plus de gens qui viennent, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont la licence, autant que radiamateurs, mais il n'y a pas beaucoup qui opèrent. Il n'y en a pas beaucoup qui font des contacts. Le but, c'est d'opérer. C'est tout. Avec mon indicatif, avec l'indicatif du club, avec n'importe quel indicatif, mais c'est d'y aller, quoi. C'est d'y aller. Puis c'est clair qu'on sera toujours là, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Les satellites ils peuvent tous tomber, mais nous, on sera là.
C'était Une bouteille dans les airs, d'après une proposition et une réalisation de Gérald Wang, dans une production du Labo, une production originale qui nous permet de relier le travail de la radio au quotidien avec les passionnés de transmission et de captation radiophonique, comme cela se faisait autrefois, mais comme cela se fait encore aujourd'hui, qui peut-être, un jour, qui sait, pourrait nous servir pour communiquer avec toute la planète. Merci à tous les radios amateurs qui ont participé à cette émission et nous avoir permis d'approcher de très près cette passion qui n'est pas très loin de la nôtre.
Et en particulier à Claude Alain, HB9CGL, Edouard, HB9IIY, Christian, HB9DBC, Manu, HB9DRY, André, HB9VJK, Bertrand, HB9SLO et tous les autres membres du club des radioamateurs vaudois HB9MM.